8h sur Inter, c'est le journal d'Hélène Roussel. Bonjour Hélène.
Bonjour. Pour la mort de George Floyd, 22 ans et demi de prison, Derek Chauvin, l'ancien policier, le son de sa voix pour la première fois hier soir et un verdict pour faire l'histoire. Nous sommes aux États-Unis dès le début de ce journal. Plus le temps passe, moins il y a de chances de trouver des survivants. 159 personnes portées disparues. Près de Miami, les recherches acharnées après l'effondrement d'un immeuble jeudi. Les autorités se préparent au pire. Et puis aussi le variant Delta et l'Australienne Sydney qui se reconfine pour 2 semaines. L'appel à se faire vacciner en Alsace, en France. Valérie Bacot, condamnée pour l'assassinat de son mari violent, condamnée hier soir mais libre. Le rugby, top 14, une ville rose en rouge et noir, nuit blanche pour fêter le titre. Toulouse reste champion de France. Enfin, le Tour de France qui attaque en Bretagne à midi. Première étape, nous sommes en direct à la fin de ce journal. On parle vélo aussi à 8h20, Eric.
Exactement, avec Olivier Aralambon. Il est écrivain, journaliste, ancien cycliste professionnel. Son livre, Le coureur et son ombre, vient d'être réédité aux éditions Premier Parallèle.
France Inter. Un policier blanc en prison pour avoir tué un homme noir et l'Amérique face à son histoire. 22 ans et demi de réclusion pour Derek Chauvin. Le verdict est tombé hier soir. Lui qui, avec son genou, avait asphyxié George Floyd à Minneapolis il y a un peu plus d'un an pendant 10 longues minutes. La vidéo, insoutenable, avait fait le tour du monde et déclenché un mouvement de protestation inédit dans tout le pays. Le verdict épilogue d'un procès qui aura enflammé les États-Unis. Audience suivie pour nous par Pierrick Laurent.
Les dernières prises de parole devant le juge de Minneapolis restent dans le prolongement du procès. Un à un, les membres de la famille de George Floyd s'expriment, et pour la première fois sa fille, Gianna, dans un enregistrement vidéo.
Je pose tout le temps des questions sur lui.
Et si tu pouvais dire quelque chose à ton papa, ce serait quoi?
Je lui dirais, tu me manques, je t'aime.
Ces deux frères racontent le poids quotidien du procès depuis la mort de George Floyd il y a un mois et un an, jour pour jour. « Je n'ai pas eu une bonne nuit de sommeil », explique Philonise Floyd. Terence, l'autre frère, s'adresse directement à Derek Chauvin.
« Je voudrais savoir de la bouche de cet homme, pourquoi ? À quoi pensiez-vous quand vous aviez le genou sur le cou de mon frère ?»
L'ancien policier reste impassible, le visage fermé. Il prend finalement la parole en dernier, quelques secondes, où pour la première fois il se tourne vers la famille.
Je veux présenter mes condoléances à la famille Floyd. Il y a de nouvelles informations qui vont bientôt sortir et j'espère qu'elles vous permettront de trouver un peu de paix.
Une déclaration bien mystérieuse. À l'annonce du verdict, Derek Chauvin reste imperturbable. L'officier n'en a pas fini avec la justice. Il devra aussi affronter la Cour fédérale pour violation des droits constitutionnels de George Floyd. À Los Angeles, Pierrick Laurent pour France Inter.
Une sentence qui semble juste, a dit pour sa part Joe Biden hier soir, un pas de plus vers la réconciliation pour l'avocat de la famille. À l'autre bout du pays, sur la côte Est, c'est une course contre la montre et contre la mort, un cratère dans le sol et un champ de ruines. Les images disent tout de l'ampleur de la catastrophe. Recherche acharnée et sous la tempête, après l'effondrement en pleine nuit jeudi d'un immeuble de 12 étages à Surfside, près de Miami. Loïc Lory, vous êtes sur place, 4 morts officiellement toujours, mais les autorités craignent le pire. 159 personnes toujours portées disparues ce matin.
Oui, les secouristes ont beau se relayer nuit et jour sur le site. Personne n'a été retrouvé ce vendredi, expliqué dans la journée la maire du comté. Ce bilan reste donc désespérément identique. 4 morts, 48 heures après la catastrophe et surtout 159 disparus. Certains de leurs visages ont été affichés par des proches à l'extérieur du périmètre de sécurité, sur des grilles avec leurs noms, Louis et sa maman, Anna, Franck, Anne, Laura, Lorenzo, avec à chaque fois la mention « missing » pour « disparu ». Les secouristes, eux, poursuivent les recherches. Il est 2h du matin ici à Surfside, mais l'espoir de tirer des survivants de cette montagne de gravats s'amenuise d'heure en heure. Certains désormais réclament aussi des réponses. Comment cet immeuble de 12 étages a pu s'effondrer? On sait que des travaux étaient en cours pour mettre le bâtiment aux normes. On sait aussi qu'il avait subi un affaissement de 2 mm par an entre 93 et 99. Mais il n'y a pour l'instant que des hypothèses et l'attente interminable qui se poursuit pour les proches des disparus.
Loïc Lory à Miami pour France Inter. Une enquête est ouverte et l'état d'urgence a été déclenché.
En France, elle a tué son mari. Elle a été condamnée hier, mais elle est repartie libre.
C'était elle ou lui, avait justifié son avocate. Valérie Bacot a tiré une balle dans la nuque de son conjoint en mars 2016, après plus de 24 ans de viol et de prostitution contrainte. Reconnue coupable d'assassinat hier soir par la cour d'assises de Chalon-sur-Saône, condamnée à 4 ans de prison, dont 3 avec sursis. Valérie Bacot, qui a déjà fait un an en détention provisoire, est donc ressortie libre du tribunal, accueillie par les applaudissements de son comité de soutien. Un procès symbolique et un verdict qui fait avancer la société pour l'avocate et présidente de l'association Lawyers for Women, Michèle Dayan.
C'est un verdict qui est juste, qui a cette importance que cette femme ressort libre, déjà. Elle ressort libre de la cour d'assises, et la liberté pour une femme qui a vécu plus qu'un calvaire et plus que des violences, une emprise, c'est-à-dire l'abolition de toute liberté depuis tellement longtemps. Le symbole de la liberté, c'est très fort. Donc, il était très symbolique, ce procès, et le ministère public, heureusement, ne pouvait pas faire autrement que de demander la clémence. Je pense qu'aujourd'hui, que la loi est dite et la condamnée, quand même, puisque, en effet, il a bien été clairement dit qu'on ne tue pas. Hein, donc, la loi est rappelée. C'est, à mon avis, peut-être pas suffisant, mais en tout cas nécessaire pour qu'elle puisse se construire et qu'elle puisse aujourd'hui vivre. Tout simplement.
Michèle Dayan, l'avocate soulagée qui répondait à Julien Langlais. Fusillade sur un terrain de foot hier soir à Marseille. Un homme a été tué, un autre grièvement blessé en plein tournoi dans les quartiers nord. Une voiture est arrivée au stade Lamartine. Les occupants ont tiré sur les joueurs avant de filer. L'ombre du variant indien dit désormais Delta s'étend. Deux personnes de 60 et 42 ans sont mortes dans les Landes. Elles présentaient des facteurs de risque et n'étaient pas vaccinées. L'Occitanie qui lance un appel au dépistage et donc à la vaccination. Mais il n'y a pas que le sud-ouest. En Alsace, près de Saverne, depuis le cluster dans l'usine Cadi de Dettwiller, les injections se font à la chaîne et la défiance de la population vis-à-vis du vaccin semble s'effriter à mesure que le variant Delta s'étale. Reportage Marie Maheu, France Bleu Alsace.
Et les plus attendus étaient les salariés de Cadi, comme Dominique, 46 ans, venu se faire vacciner en combinaison de travail rouge et grise.
Une fois qu'il y a eu un cluster, on ne parle plus que de Covid. Voilà. Après, on a appris que c'était le variant Delta. Et d'après les sens fixes, il est beaucoup plus dangereux, quoi, et plus contaminant surtout. Quoi.
Un fort risque de contamination qui a poussé plusieurs habitants de Dettwiller à sauter le pas, comme Vanessa.
J'aurais peut-être attendu quelques jours pour me faire vacciner, mais là c'est vrai que ça devient un peu plus inquiétant en fait. J'ai des enfants, donc je préfère quand même me vacciner pour me protéger.
Et elle est loin d'être la seule. Le centre de vaccination connaît un pic de fréquentation depuis l'apparition du cluster. Véronique, l'une des quatre infirmières.
On a senti un rush là ce matin et apparemment ça se poursuit pour la journée.
C'est en constante augmentation quoi.
Cécile Consina, la coordinatrice du centre.
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent nous voir directement et qui disent qu'ils n'arrivent pas à prendre rendez-vous sur Doctolib par exemple. Donc ils viennent nous voir et puis on peut les accepter aujourd'hui. Ça risque d'augmenter, on peut augmenter jusqu'à 623.
Une montée en puissance qui va atteindre les 770 injections par jour. Plus de 4600 doses sont attendues pour la semaine prochaine.
Et ce variant inquiète toute la planète. L'Australie annonce ce matin que c'est toute la ville de Sydney qui va se reconfiner pour 2 semaines. Israël rétablit l'obligation du port du masque dans les lieux publics fermés. Et l'Allemagne referme ses frontières avec le Portugal et la Russie. La manière forte aux États-Unis, vaccin obligatoire bientôt pour les 35 000 employés de la ville de San Francisco, y compris les pompiers, les policiers, tous devront se faire vacciner. Sous peine de sanctions, ça peut aller jusqu'au licenciement. Que sait-on de la progression du variant Delta en France et dans le monde? C'est aussi un dossier à lire sur franceinter.fr.
La marche des fiertés aujourd'hui, cette marche qu'on appelait avant la Gay Pride un peu partout dans le monde.
Pour la première fois, qui partira tout à l'heure de banlieue parisienne et non pas du centre de Paris, de Pantin très exactement, en Seine-Saint-Denis. Mais sur la liste des pays où il est difficile d'être homosexuel, bi ou transgenre, c'est bien la Turquie. Les associations LGBT, dans le viseur du président Erdogan, leur symbole même, le drapeau arc-en-ciel par exemple, criminalisé. Le défilé cet après-midi dans les rues d'Istanbul, sans surprise, a été interdit. Sur place, Anand Loher, RFI pour France Inter.
Il y a encore 7 ans, dans la Turquie de Recep Tayyip Erdogan, la Gay Pride faisait défiler des dizaines de milliers de personnes. Mais depuis 2015, cette marche est interdite et le simple fait d'agiter un drapeau arc-en-ciel peut mener devant les tribunaux. Havin Özcan, un militant LGBT.
Le pouvoir s'en prend à nous car notre mouvement est à la pointe des protestations contre tout ce que ce régime incarne. Et plus notre voix porte, plus les attaques sont fortes.
Les ONG décrivent une politique de plus en plus répressive et un discours de haine de plus en plus décomplexé dans un pays où l'homosexualité n'est pourtant pas illégale. Tulay Savaş, une militante dont la fille est lesbienne, estime que les LGBT sont une cible facile pour un pouvoir en perte de popularité dont la principale stratégie est de diviser pour continuer à régner.
Ce pouvoir n'accepte plus aucune voix dissidente et il pense que la société approuve le discours anti-LGBT. Donc associer le moindre mouvement mouvements de protestation ou LGBT, cela permet de discréditer aux yeux de l'opinion publique toute forme de contestation démocratique.
Le 1er juillet, la Turquie se retirera officiellement de la Convention d'Istanbul, traité du Conseil de l'Europe visant à protéger les femmes des violences. Motif invoqué par les autorités, le texte, selon elle, encouragerait l'homosexualité. Anne-Gloire, Istanbul, RFI pour France Inter.
Une attaque au couteau en pleine rue à Wurzburg, en Bavière, en Allemagne, hier. 3 passants sont morts, 5 blessés. Le suspect, un jeune homme de 24 ans, connu pour des antécédents psychiatriques, a été arrêté.
8h10, on passe au sport et le Tour de France, évidemment.
C'est parti pour 22 jours de vélo, ça commence en Bretagne. Attention, en Bretagne, ça grimpe aussi parfois sévère. Première étape, Brest-Landerneau, 198 km, 184 coureurs sur la ligne de départ. Brest, où vous vous trouvez, Jérôme Cadet, bonjour.
Bonjour Hélène, bonjour à tous.
Alors on va vous retrouver, Jérôme, tous les matins dans le journal de 8h pour une chronique du Tour. C'est un premier parcours aujourd'hui accidenté avec une arrivée cet après-midi, un final au sommet de la Côte de la Fosse au Lyon, évidemment. On adore le nom.
Oui, le Tour, c'est du sport, Hélène, mais c'est aussi du commerce, du marketing. Et à Landerneau, on sait de quoi on parle, puisque c'est là qu'Édouard Leclerc a ouvert en 1949 son premier magasin dans l'une des pièces de la maison familiale. On connaît la suite. Pour le Tour, ce sont des étapes qu'il s'agit de vendre au public. Alors, il y a les classiques, les valeurs sûres, le Mont Ventoux ou l'Alpe d'Huez, là, c'est facile. Mais il y a aussi les nouveautés. Et là, le nom est très important. Prenez la planche des belles filles dans le massif des Vosges. En 9 ans, le Tour y est arrivé 5 fois et son nom poétique n'y est pas pour rien. Alors on se dit que ce n'est pas uniquement pour sa difficulté que cette côte de la Fosse aux Loups a été choisie pour accueillir l'arrivée de cette première étape. La Fosse aux Loups, c'est là, à l'orée des forêts qui entourent Landerneau, que les villageois creusaient au 19e siècle des trous profonds et recouverts de branchages pour piéger un animal qui n'hésitait pas à s'en prendre aux hommes et terroriser les enfants. Et comme souvent, le Tour a fait mouche depuis que la Fosse aux Loups est au programme. Les coureurs du dimanche viennent par dizaines essayer la bosse, sans parler des coureurs à pied. C'est à qui mettra le moins de temps. Cet après-midi, le champion du monde Julian Alaphilippe tentera de les mettre d'accord. Le surnom de son équipe, le Wolf Pack, en français la meute des loups, ça ne s'invente pas.
Non, c'est sûr. Alors dans la meute, il y a deux jeunes loups qui risquent de donner du fil à retordre sur cette 108e édition. Les Slovènes Pogacar et Roglic. On surveillera, on suivra tout cela avec vous, Jérôme Cadet, et puis toute l'équipe aussi d'envoyés spéciaux de France Inter. Départ donc tout à l'heure, midi 10 de Brest, 4 jours en Bretagne pour le Tour, qui mettra ensuite le cap au sud. Une nuit de folie dans les rues de Toulouse aux couleurs des rouges et noirs. Après la Coupe d'Europe de rugby, le bouclier de Brennus, un doublé comme Toulouse n'en avait pas connu depuis 1996. 18 à 8 hier, La Rochelle à nouveau battue aux portes de la gloire. Toulouse magistrale dans cette finale du top 14 à l'image du remplaçant de Roman Tamak en convalescence toujours après son KO la semaine dernière. Un certain Thomas Ramos, sans conteste Vincent Pellegrini, l'homme du match.
Dès la troisième minute, Thomas Ramos a donné le ton de cette finale en passant une pénalité de plus de 50 mètres. Prémisse d'un match de très haute facture, 100% de réussite face au Perche et 15 points inscrits, un jeu au pied chirurgical qui a constamment fait reculer les Rochelais et une animation toujours pertinente orchestrée avec son demi-mêlée Antoine Dupont. Comme il y a 2 ans, en finale déjà, l'arrière Thomas Ramos a remplacé avec succès Roman Tamak, blessé au poste d'ouvreur, et il a prouvé une nouvelle fois sa capacité à briller dans les grands rendez-vous, ce qui n'a pas surpris son coéquipier à Toulouse et en équipe de France, le troisième ligne François Cross.
C'est un grand joueur, il a la capacité à jouer 10 arrière, c'est un joueur qui pue le rugby et ce soir encore il a montré que ça ne le dérangeait pas de jouer numéro 10. Il a vraiment bien su gérer notre match et il a une grande partie dans la maîtrise de la victoire qu'on a construite.
Comme Antoine Dupont, Thomas Ramos compte déjà à 25 ans 2 titres de champion de France et 1 titre de champion d'Europe à son palmarès. Et il serait étonnant qu'avec le Stade toulousain, il n'y ajoute pas quelques lignes supplémentaires dans les années qui viennent.
Vincent Pellegrini. En bref, pour finir, championnat d'Europe de basket au féminin, demi-finale tout à l'heure, 18h, les Françaises affrontent les Biélorusses à Valence en Espagne et puis l'Euro, le foot. Les matchs du jour, début des 8e de finale, 18h, Pays de Galles, Danemark et puis à 21h, l'Italie affronte l'Autriche.
Hélène Roussel pour le journal de 8h, l'excellent journal de 8h d'Hélène Roussel. Le temps de ce samedi.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir vos véhicules. Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, les experts Euromaster sont partout au service de votre sécurité.
Un ciel mitigé aujourd'hui, Jean-Michel Gonaski.
Seul le bassin méditerranéen va conserver un temps plutôt bien dégagé. Ailleurs, l'ambiance sera plus mitigée sous un ciel maussade sur un large quart nord-ouest dans la zone Bretagne, Nord-Pas-de-Calais, Poitou-Charentes, bassin parisien, Ardennes, avec des pluies faibles se renforçant en milieu de journée sur la Bretagne, les pays de la Loire et la Haute-Normandie, et la mise en place cet après-midi d'un régime d'averse ponctué de coups de tonnerre au nord de la Seine. Sur les autres régions, le temps variable deviendra lourd et orageux, en particulier ce soir entre le sud de la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, dans des températures de 18 à 20 degrés près de la Manche et de Brest à La Rochelle, contre 30 en basse vallée du Rhône, sur la Corse, le Dauphiné et au sud de la Garonne. Il fera 27 sur l'Alsace, 26 à Limoges, 25 à Bourges et Nevers, 23 à Tours, Paris et 21 à Lille.
Jean-Michel Gonaski, Météo France.